La main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Alors vous avez le sentiment, Alain, que la tradition du gui se perd.
Et oui, et cela m'attriste, et ce pour deux raisons. La première, vous vous en doutez, est que je suis de ceux qui aimaient le premier jour de l'année embrasser qui vous voulez sous la boule de gui suspendue dans le salon. Je constate avec regret que le gui a disparu de nos intérieurs et même de nos portes d'entrée où il était encore bon d'en placer il y a quelques années à peine.
Ouais, vous ne direz plus au gui l'an neuf ?
Non, et vraiment je le déplore, car la deuxième raison qui me faisait apprécier cette coutume est qu'il fallait le couper dans la nature pour fleurir son chez-soi. Tous les ans, des centaines de milliers de branches de gui étaient ainsi éliminées des arbres, et ce pour leur plus grand bonheur, je parle du bonheur des arbres bien évidemment. Le gui, il est bon de le savoir, est une plante parasite qui nuit gravement aux arbres sur lesquels il se développe.
Mais le gui est une véritable plante.
Oui, alors sans aucun doute, même s'il se distingue par une absence de racines. C'est d'ailleurs pour pallier à ce problème qu'il possède un ostarium, à savoir un organe qui pénètre dans les tissus de l'arbre colonisé pour absorber la sève. Alors une fois installé, le gui produit au printemps des fleurs mâles et des fleurs femelles. La plante est dioïque. Les baies naissent uniquement sur les pieds femelles et vont rester accrochées aux branches pendant plusieurs années.
Et le gui, beaucoup d'oiseaux s'en délectent.
Vous n'avez même pas idée, beaucoup s'en délectent et favorisent sa dissémination, car après en avoir mangé, ils s'envolent vers de nouvelles aventures. Les graines, ainsi transportées dans les fientes, et oui, germent sur d'autres végétaux.
Et les arbres souffrent donc du gui. Ils sont nombreux, ces arbres, à souffrir.
Tous, ou presque, peuvent en être parasités, excepté peut-être le platane et le hêtre. Pour le chêne, c'est possible, mais rare. Si rare que le chêne porteur de gui était autrefois vénéré par les Gaulois, qui le considéraient comme sacré. Mais là encore, parce que ce matin je déplore tout, eh bien je regrette la disparition des druides. Alors disparu aussi. Eh ben oui, il n'y a plus de druides.
Ah et non. Vous le déplorez.
Eh oui, eh bien,
avant, on en croisait souvent.
Je déplore aussi la raréfaction des gardes champêtres, qui obligeaient hier encore les jardiniers à supprimer le gui dans les arbres. Il n'y en aurait plus de que 1000 aujourd'hui, contre dans les années 50, 30 000. Il y a 29 000 gardes champêtres en moins. Je trouve ça absolument terrible. Restons toutefois positifs en ce début d'année. Vous me connaissez, j'ai toujours le moral. Je vais donc vous parler en deux mots de l'épiphanie. C'est demain l'occasion de savourer des galettes. On vient de le dire dans le journal. L'occasion de découvrir une fève, mais une fève en plastique. La vraie, le légume. Elle aussi a disparu il y a longtemps, et ça aussi je le regrette. J'ai le moral aujourd'hui dans les chaussures.
N'êtes-vous pas devenu un vieux ronchon?
Si, ah mais je l'assume pleinement.
Alain Baraton, Alain, vos réponses et vos conseils aux auditrices et auditeurs maintenant. De France Inter, avec Charles qui vous demande, est-il possible de couper court un très vieux rosier grimpant?
Non, j'explique. Le rosier grimpant est une plante qui a pris ses aises, qui a mis du temps à se développer et qui s'est installée durablement. Souvent, on récupère une maison, on hérite d'un pavillon, on a là sur la façade un vieux rosier grimpant. Quel âge peut-il avoir? 20 ans, 30 ans, 50 ans, un siècle, on ne le sait pas. Et on se dit, tiens, on va refaire le crépi, on va donc réduire le branchage de cette plante, elle redémarrera bien. Eh bien, ce n'est pas aussi simple. Les plantes, je ne cesse de le dire, de le répéter, sont des êtres vivants, des êtres délicats qu'il faut ménager. Donc oui, il est possible de couper court un rosier en respectant quelques règles. Déjà, si on doit le faire, c'est maintenant. Ensuite, on ne coupera pas à 10 cm du sol. On gardera des tiges en hauteur. On se limitera à couper, du moins à réduire, les branches secondaires, celles qui prennent naissance à partir de l'axe principal. Et puis, on se rappelle que s'il a fallu du temps pour la plante pour prendre une telle dimension, il faudra peut-être prendre du temps pour la réduire. On ira donc tous les ans un petit peu davantage, mais certainement pas couper du jour au lendemain. Là, la plante ne supportera pas.
C'est noté. Une question de Louise à présent, à propos de la lavande. Je ne sais pas s'il y a de la lavande au château de Versailles.
Il y en a partout de la lavande. J'adore la lavande.
Question de saison. La lavande résiste-t-elle aux gelées?
À Versailles, on a tout connu. Les guerres, les révolutions, y compris les gelées. Et il y a de la lavande. En général, un pied de lavande résiste à moins 15, moins 20 degrés. En général, il y a quelques variétés un petit peu plus délicates. Pour que la lavande soit belle, pour qu'il y ait beaucoup de fleurs, il faut qu'il y ait en été de la lumière et du soleil. Ça n'empêche pas la plante de supporter le froid. Exemple tout bête, l'abricotier. Un abricotier est un arbre qui résiste à moins 15, moins 18, sans aucun problème. Mais la floraison de l'abricotier étant printanière, elle ne supporte pas le froid. Ce qui signifie que si vous plantez un abricotier au nord de la Loire, oui, il va être content. Non, vous n'aurez pas d'abricot, sauf exception, parce que la plante n'aime pas le froid. au moins au début de la végétation.
Une question de Didier.
J'espère être clair.
Mais vous êtes très clair.
Vous êtes très limpide. De ne pas comprendre moi-même ce que je dis.
Vous avez été pire que ça, moi je peux vous le dire, mais là on comprend bien. Hein. Didier vous demande, Alain Baraton, est-ce que les feuilles des arbres fruitiers peuvent aller au compost ou bien y a-t-il risque de transmission de maladies au compost?
Alors, je vais répondre en deux temps. Façon revue, horticole, livre savant, je dirais surtout pas. Il ne faut pas introduire les feuilles de pommier, les feuilles de tomate, tout ce qui est plein de maladies dites cryptogamiques au risque de contaminer l'ensemble du compost. Et puis il y a le Baraton jardinier qui vous répond, vous mettez ce que vous voulez au compost, parce que de toute façon la chaleur dégagée par le produit va faire que les petites...
Ce qu'on veut, je suis pas sûr, on met pas les agrumes par exemple.
Alors non, parce que les agrumes sont souvent traités.
Les peaux d'agrumes.
On évitera de mettre ce qui a du mal à se décomposer, et tout ce qui est traité, quand vous avez des agrumes qui ont été traités chimiquement, vous retrouvez les produits dans le compost. Mais en général, je dis bien, en général, vous pouvez mettre pratiquement ce que vous voulez, mais tout est une question de dosage. Si effectivement vous avez des pommiers malades et vous mettez 3 tonnes de feuilles de pommiers malades sur votre compost, il y a de fortes chances que ça n'aille pas. Mais en général, oui, on peut pratiquement tout mettre.
Brigitte a un fils qui lui a offert une magnifique orchidée, dit-elle. Comment en prendre soin et à quel rythme l'arroser? Et quelle température idéale au passage?
Alors 16, 18, 20 degrés, ce n'est pas très grave. Un petit coup de pulvérisation tous les jours sur les tiges, sur les feuilles, ça lui fera le plus grand bien. Ne jamais couper les tiges apparentes que l'on voit à travers le pot transparent, parce que la plante capte l'humidité. Et se rappeler qu'après la floraison, il suffira simplement de couper au-dessus du troisième œil la tige qui a porté les fleurs. À part ça, lui parler beaucoup d'amour et la plante continuera
c'est
de fleurir.
C'est fou cette mode des orchidées, non?
Oui, mais comme je le disais il n'y a pas très longtemps, elle est en train non pas de tuer les fleuristes, mais quand vous avez un pied d'orchidée, il fleurit chez vous pendant 3 mois et pendant ce temps, on n'achète plus de fleurs. Eh ben oui.
Jeff veut créer un potager collectif sur un terrain humide. Il souhaite installer une bambouseraie sur environ 20 mètres carrés. Notre idée, dit-il, est d'utiliser de la tôle ondulée pour limiter leur dispersion. À quelle profondeur doit-on les installer? Question très précise, réponse très courte.
J'aime bien cette vieille expression, il faut garder raison. Non, 20 mètres carrés, c'est pas une bambouseraie, c'est un bosquet ou c'est à la rigueur un massif. Le bambou n'est pas non plus une plante aquatique, donc on peut mettre ce que l'on veut, on peut mettre des bambous. Et si on met des tôles, on les enfoncera à 1 mètre de profondeur, mais voilà, il n'y a pas de danger.
On met des tôles, il faut expliquer pourquoi, pour que les rhizomes n'aillent pas se promener
tout à fait,
un peu partout, n'aillent pas abîmer les murs. Voisinant.
On est d'accord parce que
du voisin, il s'en fiche, hein, les murs du voisin.
Oui, si ça dépend du voisin.
On est en retard. On termine avec un dernier conseil, Alain.
Les fleurs amoureuses, après les livres amoureux, les deux auteurs, à savoir Stéphane Hante et Frédéric Andoux, renouvellent leur opération. Les fleurs amoureuses, des photos sublimes, des textes qui expliquent comment les plantes se reproduisent. Et il y a parfois des surprises. Et c'est publié chez Salamandre.
Une seule portion de galette, Alain Baraton.
Ah non, deux.
Non.
Et vous gardez la fève et je vous donne la couronne. Merci, Alain Baraton. À samedi prochain.
À samedi.